Bienvenue au balado des attachés de presse. Et oui, chers auditeurs, auditrices, bienvenue à un nouvel épisode du balado des attachés de presse. Aujourd'hui, ce n'est pas Nicolas qui va être à la barre, ça va être Marc-Olivier pour ce balado spécial. D'ailleurs, Nicolas, tu vas être pareil sur notre panel aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le sujet, en fait, de ce balado-là?
Oui, effectivement. Ben merci Marco, tout d'abord, de prendre ma place à cette à l'animation. Non, ça fait plusieurs semaines que moi, Renaud, même Marco, si je ne m'abuse, on jase et on discute. On parle souvent de sport et politique. On en jase à l'extérieur, hors d'onde. Puis on a vite réalisé, c'est vrai que le sport est impérativement politique et vice-versa. Et que ça serait intéressant d'en jaser plus concrètement. Parfois, je prenais le micro les lundis, puis j'en glissais certains mots, des petites flèches par rapport à ça. Mais là, on va en parler vraiment plus concrètement pendant une heure. Sachez que ça tombe pas du ciel, là, cette idée-là. Je suis un grand sportif, j'adore le sport, Marc aussi, Megan aussi d'ailleurs. C'est ça qui va être le fun, on est tous passionnés par le sport. Puis avec la recherche que j'ai faite, je vous cacherai pas, je suis pas un expert non plus, là, on se le cachera pas, mais avec la recherche que j'ai faite, j'ai vite réalisé, oh mon Dieu, c'est vrai que c'est vraiment politique, puis qu'on le sujet du sport à travers la géopolitique, la politique, et sous-estimé à travers le travail des politologues, notamment sur le plan francophone, dans la littérature francophone. Donc, on va pouvoir en discuter plus concrètement dès maintenant, en fait.
Oui, effectivement, tu l'avais mentionné, ça va être plus une discussion, parce qu'on en parlait lundi, puis là, je commençais là, à... les Jeux olympiques de Berlin, après ça, les Jeux olympiques de Munich, j'arrêtais pas que des événements qui sortaient. OK, c'était juste les Jeux olympiques, parce que... C'est ça qu'on va constater, c'est soit des événements qui sont à grandeur internationale, ouais, qui sont davantage politiques.
Oui,
mais si tu veux, en fait, commencer tout de suite avec une liste d'événements, puis qu'on réagisse, qu'on en discute.
Ben, en fait, ça va être vraiment personnel, cette partie de l'émission, mais je vais quand même me lancer. Écoutez, je pense que tout le monde se rappelle de ce but magique, surtout notre génération. Moi, j'avais 10 ans à l'époque, lors du but en or de Sidney Crosby aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, faut pas le cacher. Ce but-là, avant d'entrer dans le politique, il représente énormément pour le Canada et pour Sidney Crosby en général, parce que non seulement le Canada a gagné sa 14e médaille d'or des Jeux olympiques, qui correspond d'ailleurs à un record olympique. À cette époque, c'était un record pour le plus grand nombre de médailles d'or pour un même pays lors d'une Olympiade d'hiver. Ce but-là, c'est compté la dernière journée des Olympiques. Donc, si le Canada perdait, mais il n'y avait pas le record, fait que là, en marquant en prolongation, mais le Canada a reçu ce record-là. Et non seulement... C'était spectaculaire, on va se le dire. C'était les derniers Olympiques en sol canadien depuis 1986 à Calgary. Et donc, ça le rentrait dans l'imaginaire des Canadiens. Et en toute transparence, puis pour ceux et celles qui nous écoutent en temps normal, vous connaissez ma ligne éditoriale, mais j'étais Canadien cette journée-là. T'sais, sans faire de blague, ça nous a rentré dedans, pour vrai. Puis je me rappelle exactement, on en parlait, puis on en parle encore, puis j'ai 23 ans, j'en avais 10 à l'époque. C'est que ça, c'est le premier événement que je voulais discuter, puis c'est pour ça l'aspect politique, c'est on se rallie tous à la cause canadienne, parce que c'est comme si tout le monde avait gagné, si je peux y aller de même en introduction. Encore une fois, je vais aller dans la même Olympiade. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous connaissez Alexandre Bilodeau.
Oui, je me souviens, il avait gagné la médaille d'or, puis je me souviens avec son frère, je pense que c'est là que tu t'en vas.
J'allais pas avec son frère, mais c'était des belles images aussi, effectivement. Oui. Ben, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Alexandre Bilodeau, ou le contexte du ski acrobatique au Québec... En toute honnêteté, je crois que...
On domine.
Oui, c'est le ski acrobatique québécois est probablement le sport le plus... Où est-ce que nous sommes le plus compétitifs à l'international? On a jusqu'à penser à Alexandre Bilodeau qui a gagné de multi-médailles d'or, ou de multi-médailles olympiques, mais aussi des championnats mondiaux. Michael Kingsbury qui domine, les Sœurs Dufour-Lapointe qui ont fait la tour du monde avec leurs exploits sportifs, mais aussi leur personnalité. Les trois sœurs, on dirait qu'elles sont jumelles, mais elles ne le sont pas. Mais bref, ils ont rentré dans l'univers médiatique sportif social québécois parce que nous sommes excellents en ski acrobatique, de boss notamment. Mais cette médaille-là, c'était non seulement la première médaille d'or canadienne lors d'une Olympiade en sol canadien. Donc, aux Jeux olympiques de Montréal et de Calgary en 86, on n'avait pas obtenu de médaille d'or. Alexandre Bilodeau a été le premier à le faire. Et tout le monde s'est rallié à cette victoire-là. Ben non seulement à l'échelle canadienne, mais aussi au Québec. T'sais. C'était le petit Québécois qui gagnait une médaille d'or olympique pour la première fois avec le drapeau du Canada sur le dos. Là. Donc, c'était, encore une fois, très large. Si je peux, c'est un événement qui peut paraître anodin, mais ça a rallié tout le monde à la cause canadienne et même québécoise à un certain point. Parce que, comme tu disais, Marco, ben, en plus d'être un Québécois charismatique qui remporte une médaille d'or, performant dans un contexte encore plus large, ben, Alexandre Bilodeau était accompagné de son frère handicapé qui ça a fait le tour du monde des images, ma foi, vraiment émotives. Puis c'était un grand événement, là.
Effectivement. Mégane, toi, Vancouver 2010, quels sont tes souvenirs?
Écoute, Vancouver 2010, j'étais en première année, donc mes souvenirs, c'est les petites... comment on appelle le monde déguisé, là, les petits bonhommes, là, les personnages. Là, ben, j'ai vraiment très peu de souvenirs.
Les mascottes, oui.
Les mascottes, exactement. Mais pour moi, comme ce qui est le plus marquant, j'en parlais à Dionne hier, c'est Team Canada féminin au soccer qui a gagné l'or après comme des années de se rendre proche puis de pas l'avoir, puis ça a été l'événement qui a été le plus écouté, là. Tout le monde l'a regardé, puis autant c'était une cause, ben ça comme nationaliste canadien, on va dire, tout le monde c'est comme my god, Canada est là, mais aussi pour les femmes, le mouvement féministe, à quel point ça montre comme hey, nous aussi on est importantes, c'est gros, puis ça l'a vraiment encouragé, puis présentement aussi apporte un gros mouvement parce qu'ils sont en grève contre le Soccer Canada. Donc, encore une fois, le sport qui vient créer un changement là, vraiment dans les mouvements. En tout cas, moi, c'est mon événement marquant, extraordinaire. Là. Ça a été les femmes au soccer.
C'est surtout, en plus de tout ça, c'est que non seulement les femmes canadiennes sont, depuis plusieurs années, elles dominent la sphère internationale, pendant que l'équipe masculine, elles sont
absentes,
ben,
là,
absentes
avant
totalement
la, ben oui.
Avant la Coupe du Monde récemment et sa qualification, ben, on ne parlait jamais de l'équipe masculine canadienne parce que elle était gênante, oui, au bout de la ligne. Puis c'est donc les passionnés de soccer au Canada se sont ralliés à l'équipe féminine canadienne. Oui. Donc non seulement par rapport à la réussite sportive, à la nationaliste canadienne, mais aussi au mouvement féministe également. Mm-hmm. Pour une fois, les femmes sont pas en premier. T'sais, je sais pas, ouais, si je veux pas être frileux dans ce que je veux dire, mais c'était vraiment ça dans le contexte. Là. Donc c'est vraiment intéressant. Effectivement, c'est un bel exemple. Je sais pas si toi t'en avais un.
J'avais un exemple. Puis je vais faire du pouce un peu sur ce que tu dis, mais avec un sport que je connais mieux. C'est un peu la même chose qu'on a vécu aussi au courant de la décennie 2000 avec les femmes au hockey.
Ben oui.
On se souvient en 2002, le Canada, je me souviens bien,
avait gagné. De qui tu parles?
L'équipe féminine canadienne avait gagné la médaille d'or. C'était une première qui allait être de quatre. Puis après ça, en fait, on malgré les déboires de l'équipe canadienne aussi, parce que l'équipe canadienne n'a pas tout le temps gagné la médaille d'or. Là. En 98, t'avais Mario Lemieux puis Wayne Gretzky. Ils ont quand même gagné la médaille d'argent, juste mentionné. Mais tu sais, on le voit après ça, ça le fait qu'ils gagnent la médaille d'or, le fait que le sport féminin, en fait, une place de grande écoute, de grande audience dans un événement sportif mondial. Ben après ça, ça a ramené sur la place publique les débats en Amérique du Nord par rapport au hockey. Est-ce que les femmes, est-ce qu'on est capable de créer une ligue de hockey féminin, professionnelle, comme les hommes? Aux États-Unis, la NBA a son penchant féminin avec la WNBA où est-ce que les femmes reçoivent un salaire pour jouer. Mais au Canada, ça n'a pas toujours été le cas. Là, aujourd'hui, après des décennies d'acharnement, il y a certaines équipes, le Canadien le fait avec les Canadiennes de Montréal, supportent l'équipe féminine avec un salaire, mais c'est ridicule le salaire. Là. Moi, je me souviens de documentaire que j'écoutais, je pense que c'est la grande pionnière du hockey féminin au Canada, c'est France Saint-Louis. France Saint-Louis, qui était une défenseur, mentionnait qu'elle devait avoir une carrière en parallèle de professeur d'éducation physique pour pouvoir payer En fait, pour pouvoir payer son équipement, pour pouvoir payer les droits de tournoi pour jouer, parce qu'avant que les femmes gagnent l'or, ben, c'était pas couvert, là. Il fallait qu'ils déboursent leur poche là, pour participer aux compétitions internationales.
C'est, comme, c'est vraiment gênant quand tu y penses, mais c'est grâce justement à ces efforts-là par ces athlètes-là, mais qu'en fait, ils sont reconnus là, sur la scène politique internationale, là, donc on applaudit ça, là.
Effectivement. Nicolas, tu veux continuer avec d'autres événements sportifs, politiques?
Hein? Oui, bien, Charles, avant d'aller dans d'autres événements, je veux juste vous rappeler, cette l'émancipation du sport féminin provient d'un mécanisme par rapport aux relations internationales des États, même le développement de ces dernières. Puis vous allez comprendre la démarche. Après, j'ai nommé quelques autres exemples parce que, comme on a mentionné, aujourd'hui, c'est vraiment une discussion vraiment légère, quand même légère, oui, on va le dire. Donc, on est vraiment dans le côté émotif. Puis je me dis, pourquoi pas aller mentionner d'autres événements supplémentaires? Je veux juste mentionner, quand on parle Jeux olympiques, on pense aussi aux Jeux olympiques de 1936 à Berlin.
Oui.
Bon, on fera pas de cachette à personne. C'était les Jeux olympiques où est-ce que Adolf Hitler a eu, et l'Allemagne nazie a vraiment pris ce podium-là, c'est un mauvais jeu de mots, pour mousser l'image nazie, la puissance allemande. Aux yeux du monde entier, en fait. Puis, ce qui est vraiment passionnant à travers cette histoire-là, bien, c'est l'ascension de Jesse Owens, le sprinteur et sauteur américain qui a tout gagné, en fait. Là, médaille d'or par-dessus médaille d'or au 100 mètres, 200 mètres, relais, saut en longueur. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est au-delà même... En fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec le film de Jesse Owens, 12 minutes de liberté.
Oui.
On peut le commenter rapidement. Extraordinaire film, et c'est là que tu te rends compte que non seulement le sport est permet présenter une image, de glorifier une histoire ou une idéologie, mais aussi, mais à un certain but, à un certain prix, parce que si ça sort du cadre, ben on te met de côté. C'est exactement ce qui est arrivé à Jesse Owens. Pour vous donner une petite idée, Jesse Owens, à la suite des Jeux olympiques de 1936, des exploits phénoménales, a même pas été invité à la Maison-Blanche par le président Roosevelt, comme vous le savez, parce que pour sa couleur de peau, pour des excuses électoralistes. Roosevelt pensait qu'il n'allait pas avoir assez de votes pour sa réélection. Il s'était lié d'amitié avec Jesse Owens, qui pourtant, pendant les Jeux olympiques, ben, c'était l'ami de tous les Américains. C'est vraiment quelque chose de fou quand tu y penses, mais c'était ça à l'époque. Faut pas oublier aussi que Jesse Owens, on était en Allemagne nazie, donc et Jesse Owens n'était pas supposé courir au relais. Les entraîneurs d'athlétisme USA, désolé l'anglicisme, se sont fait dire ben, par le gouvernement allemand et par le comité olympique, tes sprinteurs juifs ne peuvent pas courir. Et c'est là que les entraîneurs ont dû positionner des athlètes noirs au détriment parce que, bon, Adolf Hitler, on va l'accepter parce qu'ils ne sont pas juifs. C'est insensé ce que je dis là, mais c'était vraiment ça pour vrai. Et finalement, Jesse Owens a volé le spectacle en Allemagne alors qu'il ne représentait pas la suprématie aryenne que Adolf Hitler demandait. Donc, ça le joint un petit peu dans la tête d'Hitler. Mais bref, je voulais quand même en glisser un mot parce que pourquoi cet événement de politique? Tout simplement, on voit le dessous des succès de Jesse Owens. On voit... j'ai pas le terme qui me vient en tête là, parce que c'est indéfinissable, là, mais je veux dire le scandale par rapport à tout ce qui est raciste et tout dans le sport. Mais quand ça plaît, quand tu ramènes des médailles aux États-Unis, tout le monde t'apprécie, sauf dans les coulisses. T'sais. Donc c'était l'un des derniers événements que je voulais mentionner, à moins que vous vouliez en discuter d'autres. Là,
je vais réenchérir sur ce que tu dis parce que les Jeux olympiques de Berlin en 1936 avaient un côté extrêmement politique. Le but, OK, oui, c'était recevoir une compétition sportive internationale, oui, mais le but principal, le but central de recevoir les Jeux olympiques pour l'Allemagne nazie en 1936, c'était faire la promotion de la race aryenne et aussi de se servir de ça comme outil de propagande au sein même de l'État allemand nazi. du côté de l'État allemand, on avait engagé une grande réalisatrice. C'est relatif, là. Je veux dire, au niveau de la technique, c'était une grande réalisatrice. C'était Leni Riefenstahl. On l'avait engagée pour qu'elle filme les performances des athlètes de l'Allemagne pour s'en servir comme propagande au sein même de l'État pour la population, pour faire promotion de cette idéologie-là. D'ailleurs, il y a un film qu'elle a réalisé qui, si je me souviens, est disponible sur YouTube. Vous irez le voir, honnêtement, pour 1936. La technique, c'est très beau, là. On s'entend que l'idéologie derrière, on est contre, là, ici, mais pour l'avoir vu, au niveau esthétique, c'est extrêmement beau. Puis, c'est fait exprès pour ça. Donc, tu sais, si vous voulez aller voir ça, tapez ça sur YouTube, là, c'est vraiment intéressant à regarder. Puis, c'est ça. Puis, évidemment, quand Jesse Owens gagne sa médaille d'or, là, il est clair, là, pas content. Là. Il est pas content, là, il voit une personne de race noire arriver, là, puis il gagne des médailles, là, puis il bat les Allemands. Là. Il est pas content, là. Il est vraiment pas content. Donc, c'était juste ça que je voulais rajouter, mais tu sais, il y a d'autres événements là, qu'on pourrait discuter. Tu sais, quand Jackie Robinson, quand il est arrivé dans le baseball majeur, c'était la même chose. Quand Willie O'Ree est arrivé au hockey avec les Bruins de Boston, ça a été la même chose. À chaque fois, puis aussi, puis tu sais, il y a même des personnes racisées qui se sont empêchées d'aller dans les grandes ligues. Je parle au Québec, il y a Herb Carnegie, qui est un grand joueur de hockey, que Jean Béliveau considère comme étant sûrement le plus grand joueur à n'avoir jamais joué dans la Ligue nationale, parce qu'il jouait pour les As de Québec. Il a même joué d'ailleurs dans les ligues mineures ici à Sherbrooke. Puis, il jouait avec aussi deux acolytes de race noire. Puis, on surnommait cette ligne-là pour la dénigrer, la Color Line. Puis, c'est des grands joueurs qui auraient pu jouer dans la Ligue nationale, mais juste parce qu'ils étaient noirs, on leur a fait un contrat professionnel de un match. Puis, on les faisait pas jouer. Puis, après ça, on leur disait « Ah, ben t'es trop poche ». Mais c'est quand même des grands. Puis Jean Béliveau a joué avec ces gens-là dans les années 40-50 et a dit je ne comprends pas pourquoi. Il ne nous a pas fait le combat que Jackie Robinson a fait, ou Willie O'Ree a fait, parce qu'ils auraient eu leur place dans la Ligue nationale. Mais c'est la même chose aussi pour les joueurs. Je parle beaucoup de hockey parce que je me suis beaucoup intéressé à la question. Ça a été la même chose quand le premier joueur d'origine asiatique est arrivé dans la Ligue nationale. Il a joué pour les Blackhawks de Chicago, ça a été la même chose. Il a joué 13 games. Ça a été la même chose pour le premier joueur issu des nations autochtones. Il a joué 12-13 matchs. On ne leur laissait pas la chance de jouer une saison complète, d'avoir du temps de jeu égal à celui des personnes blanches, entre guillemets, parce qu'on les considérait inférieurs dans le sport. Parce que théoriquement, au début, le hockey, c'est un sport de riches, anglophones, blancs. C'est ça le hockey au début. Là. C'est plate de le dire, là, mais c'était vraiment ça. Là. C'est les anglophones blancs de McGill qui ont parti le hockey au Canada puis au Québec. Puis c'est cette tradition-là qui ont perpétué au sein de la Ligue nationale lorsque ça a été créé.
Puis tu t'en allais dans ta direction, Marco. Ça me laisse. Tu me piches la balle au bon moment parce que je vais aller tout de suite dans l'aspect un peu plus théorique de cette relation-là entre le politique et le sport. Parce que j'ai lu un livre, dans les derniers jours, Pascal Boniface, qui est directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques et développeur du concept de géopolitique du sport, qui est présent dans son ouvrage du même nom, puis qui amène une vision puis des liens assez intéressants. En fait, l'un des... Puis t'en parlais de manière directe, là. Ce dernier mentionne que le sport est souvent le reflet des institutions, que ce soit étatique ou international. Tu sais, tu le mentionnais, le hockey, c'est un sport de blanc.
Anglophone aussi.
Anglophone.
C'est extrêmement important à mentionner.
Hiérarchique, parce que si t'es pas dans ce cadre-là, tu ne peux pas jouer. Dans la vie, dans ces années-là, il y avait du racisme de manière assez claire. Revendicateurs des débats racistes ou même féministes émergeaient de manière encore plus concrète, mais c'était encore très discriminatoire, la société de l'époque. Donc, c'est vraiment le lien que je voulais apporter avant d'aller plus loin dans le livre ou certains auteurs qui ont parlé du lien entre le sport et la politique. Je pense que vous connaissez tous George Orwell, qui disait...
Oui.
Pratiquer avec sérieux, le sport n'a rien à voir avec le fair play. Il déborde de jalousie haineuse, de bestialité, de mépris de toute règle, de plaisir sadique et de violence. En d'autres mots, c'est la guerre, les fusils en moins. Ce qui est relativement intéressant, puis c'est mentionné un peu dans le livre de M. Boniface, c'est que avant l'apparition de nos sports modernes, les sports qu'on pratique aujourd'hui, les dérivés, etc., qu'est-ce que les gens faisaient en majorité, puis où est-ce que les sports étaient le plus, je veux pas dire médiatisés, mais plus populaires, ben c'était les sports guerriers. C'est les sports où est-ce qu'on se battait à mort, que ce soit dans les Colisées de Rome, le Colisée de Rome notamment. Là, donc,
les gladiateurs.
Les gladiateurs, oui, merci, c'est le terme que je cherchais. Donc, ça, on part de là dans le sport. Et là, on évolue, puis on arrive avec... Bien entendu, les Jeux d'Athènes, c'était pas juste des sports à mort. Là. Il y avait d'autres épreuves pour montrer le physique des athlètes et pour promouvoir, tu sais, vas-y.
Puis je vais rajouter là-dessus, si tu parles des Jeux olympiques dans la Grèce antique, c'est pas pour rien que les gens étaient nus. C'était pour vérifier s'ils étaient des hommes parce que les femmes ne pouvaient pas participer. Donc souvent on disait, ah ben c'est parce que c'est la culture. Non, c'était pour vérifier s'ils étaient des hommes. Donc, on voit là, parce que dans la Grèce antique, pour les sports comme ça, ben, faut que ça soit, tu sais, on fait la promotion là, un peu là, d'un idéalisme, là, puis on le voit à travers là, les dieux grecs, tout ça. Tu sais, c'est ça un peu, là. On veut là, l'homme bâti, costaud, fort, grand, qui va être courageux, valeureux, de se sacrifier. Puis de se battre ou de faire certaines compétitions sportives. C'était ça, c'est pour ça. Mais tu peux continuer.
Oui, non, il n'y a pas de souci. Puis c'est comme... Puis le Orwell, n'a pas tant là-dessus, quand il réfléchit aux manières plus objectives possibles, ben, le sport, il y a cette idée de toujours gagner. J'exagère, vous comprenez que je vais jouer au parc dehors avec mes amis, ben là, je ne vais pas être aussi intense. Je vais pas être intense du tout sur le score ou quoi que ce soit. Quoi que ça peut dépendre, mais oui, Megan, t'as raison. Mais il reste qu'à un certain point, ben c'est les sports, que ce soit très physique ou très dangereux, que ce soit la Formule 1, le football américain, le rugby, il y a là, cet aspect de, je veux pas dire de bestialité, mais de très, très difficile sur le corps, puis où est-ce que les métaphores, l'analogie avec la guerre peut paraître. Ne serait-ce que cette idée-là, où est-ce que bon, ben, tu t'amoches match après match pour une cause qui, ben, tu gagnes un match ou quoi que ce soit. Là, c'est une analogie très simple de ce que Orwell a dit, mais c'est juste pour mentionner. Déjà à cette époque, les auteurs voyaient un certain lien philosophique à faire avec le sport, ce qui est relativement intéressant. Puis je veux lancer aussi les propos de Charles Maurras. L'un des 8 journalistes qui était présent lors des Jeux olympiques de 1896 à Athènes.
Les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne.
Oui, exactement. Grosso modo, ce dernier n'était pas un fan de sport. Il s'est présenté là-bas. Ses patrons lui ont dit « Tu dois aller couvrir l'événement. » Bon. Ces derniers ont préparé 8 lettres ouvertes pour raconter comment elle se sentait là-bas et c'était quoi l'ambiance des Jeux olympiques. Puis, grosso modo, le propos qui l'a amené, qui avait plus de sens là, en soi, là, c'était que déjà à cette époque-là, le chauvinisme et les rivalités entre les États étaient omniprésentes. En 1896, il y avait cette idée-là de suprématie, de désir d'être meilleur que l'autre, encore une fois, sous le nom d'un drapeau, tu sais, qu'on voit encore aujourd'hui, là, c'est pas ça, mais tout ça pour dire qu'encore une fois, ce lien-là, nation, fierté nationale, sport, vient de pair. Quand tu gagnes, tu fais sourire des milliers de personnes chez toi, là. Donc, ça, c'est relativement intéressant. Puis, je voulais aussi, j'avais parlé de Pascal Boniface qui a fait son ouvrage, est vraiment intéressant, qui ramène une perspective assez nouvelle au sport et la politique. Il mentionne que l'univers géopolitique mondial, comme je le dis aujourd'hui, on vit dans un monde multipolaire. Mettons qu'on a ça comme constat aujourd'hui. Eh bien, ça vient impacter le sport, ses résultats et sa médiation, sa réalité. Je vous donne un exemple. Nous sommes, après la Seconde Guerre mondiale, on a ce qu'on appelle une guerre froide. Deux blocs centraux qui se battent et qui se... désir être les meilleurs, le meilleur clan. Nous, moi, je suis le meilleur que toi. Ça se transmet pas juste vis-à-vis qui a le plus grand nombre de d'armes nucléaires, mais aussi les meilleurs athlètes. Donc, à ces moments-là, dans ces années-là, puis là, je n'irai pas dans les chiffres vraiment plus poussés, mais on voit, je pourrais dire, non seulement des idées politiques qui viennent montrer ça, notamment des boycotts d'Olympiades, par exemple, le bloc américain en 1980 à Moscou. Les Américains ne sont pas présentés, le bloc de l'Ouest non plus, pour contester l'invasion russe en Afghanistan. Premier constat, mais aussi on observe une prépondérance assez frappante des athlètes russes ou américains dans les plus hautes marches du podium à travers les différentes disciplines olympiques, là. Donc c'est là qu'on observe une... C'est le lien que je voulais faire rapidement avec cette idée de une vague géopolitique émet un reflet de par rapport au sport, là. Puis c'est relativement intéressant, là. Et c'est pour ça, comme on mentionnait, on parle d'effervescence, ou bien l'émergence, là, ou le développement du sport féminin à travers le monde, bien, ça vient de pair avec notre société en général. T'sais, la guerre froide, oui, le mouvement féministe était présent, mais n'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Et vous voyez, à cette époque-là, bien, est-ce que les femmes étaient en très grande majorité aux Jeux olympiques? Non, les femmes étaient beaucoup moins présentes qu'aujourd'hui. Le financement était moins présent, l'orientation du sport n'était pas pareille. Donc, ça vient de pair avec la géopolitique mondiale. Puis on peut le mettre en relation, je vais faire un autre lien d'actualité, je vais le dire, là, avec la Coupe du monde de soccer au Qatar, où est-ce que, bien, on l'a su, le Qatar a tellement, bien, je veux pas dire volé, mais acheté, on va le dire comme ça, la Coupe du monde. On se rappelle, la FIFA doit voter qui va accueillir cette compétition internationale-là. Pour vous donner une semblante d'idée à quel point ça a pris des proportions grandes pour que le Qatar obtienne ça, bien, ils ont été voir Nicolas Sarkozy pendant qu'il était à la présidence française pour voter en la faveur de cette candidature-là en échange des prix avantageux sur le pétrole qatari. C'est grave, là. T'sais, tu dis, le sport n'est pas politique, mais je sais pas c'est quoi, là. Je sais pas c'est quoi que tu veux de plus comme preuve, là. Alors là, quand le Qatar a remporté cette candidature-là, tu te dis... Ben, de un, ça a fait un olé à ce moment-là. On se le cachera pas. Et là, ça a été d'actualité dans les dernières années, même dans les derniers mois. Mm-hmm. Là, quand ça revient à surface, tu te dis, oh mon Dieu, c'est grave ce qui se passe. Et pourquoi le Qatar fait ça? C'est quoi l'intérêt de payer autant d'argent, donner autant de bénéfices à certains pays qui votent en ta faveur pour accueillir une compétition sportive au bout de la ligne? Eh bien, c'est là l'enjeu. Le sport est un outil de soft power excessivement puissant. Au même titre que
la culture
américaine, la culture
du cinéma, la musique.
On va dire la musique, effectivement, le sport est un outil de soft power monstrueux dans l'optique où est-ce que ça permet de faire rayonner ton pays à travers ses installations, son histoire, je vais dire comme ça. Puis là, je fais du coq à langue, mais ouais. On le sait, en 2012, et Boniface en fait mention dans son livre, l'entièreté des ambassades britanniques lors de la candidature de Londres pour les Jeux olympiques de 2012 faisait du marketing, du lobbying à même leur ambassade pour présenter « Hey, voici notre candidature, ça serait regardé. » Votez pour nous parce que ça va être ça, les Jeux olympiques de Londres. Comment ça va être beau, comment vanter la culture londonienne, britannique et anglaise. Là, je reviens sur le cas du Qatar, mais c'est la même chose. Ben, t'as des intérêts à dire oui pour nous parce que regarde ce que nous, on peut faire pour toi. C'est fascinant. Fascinant. Puis, je sais pas si tu vois...
Ben, je vais faire du pouce sur un élément que t'as mentionné, tu sais... Puis ça va être en lien aussi avec des Jeux olympiques qu'il y a eu récemment. Là. Ben récemment, c'est variable. Là. En 2008, là, à Beijing,
ben
à Pékin,
oui, à Pékin, mais oui.
Tu me parlais de deux blocs idéologiques qui s'affrontaient, puis on les boycottait l'un l'autre. Les États-Unis, puis son bloc avait boycotté les Jeux de Moscou en 80. Mais aussi, il y a eu l'effet inverse. Il y a eu le bloc de l'Est qui avait boycotté les Jeux de Los Angeles en 84, je pense. Ça a vérifié, juste pour être sûr. Mais, puis t'as mentionné, aujourd'hui, on est dans un monde multipolaire. Je sais pas si vous vous souvenez...
En 84, t'avais raison.
En 84, j'ai quand même une excellente mémoire pour le sport en général. Mais je sais pas si vous vous souvenez, là, en 2008, un peu avant, c'était en 2007. En 2008, c'est la Chine qui a accueilli les Jeux olympiques d'été à Beijing. C'est quoi le contexte politique qu'il y a en Chine en ce moment-là? Bon, Il y a les Ouïghours qui se font... il y a un génocide des Ouïghours dans les régions de la Chine, qui est une minorité musulmane du pays.
C'est le début de l'élection présidentielle américaine avec Barack Obama, un changement assez marquant.
Ça n'a aucun lien avec ce que je vais dire.
Okay.
Il y a aussi en Chine, il y a la relation avec le Tibet. La Chine avec le Tibet, ce qu'elle fait, c'est que... elle décide de rentrer dans cette région-là du monde puis de littéralement assimiler le territoire alors que c'est pas le sien. Il y a aussi des relations tendues encore avec Taïwan à l'époque. Puis, qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Ben, on va y aller pareil, parce qu'il faut pas priver les sportifs de ce grand événement-là, alors qu'on le sait que la Chine bafoue les droits humains sur son propre territoire. Là, on s'en fout. Là, les droits humains, la logique, là, ça tient plus parce que c'est la Chine qui les accueille. Mais pourtant, 30 ans plus tôt, là, c'était, dans une logique de confrontation des idées, on est dans une logique qu'on veut empêcher l'autre dans son expansion, là, on les boycotte. Puis là, on empêche les athlètes d'y aller. C'est vraiment un double discours qu'on a dans le monde multipolaire qu'on est parce que le sport, oui, OK, tu me l'as dit tantôt, c'est du soft power. C'est une vitrine aussi internationale de démontrer des beaux côtés d'un pays qui en a presque pas. Puis après ça, on l'a vu après ça aussi avec les Jeux olympiques en Corée. En 2018?
Oui, 2018.
On a vu des rapprochements entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Puis, ça a été questionné après ça. Pourquoi vous êtes aussi cordial avec un pays qui est une dictature puis qu'on le sait qu'il bafoue les droits humains dans son propre pays? Mais c'est parce que... c'est du sport, c'est pour avoir des bonnes relations, tu sais, c'est une vitrine. Mais...
C'est positif, le sport, puis c'est...
Mais ça, c'est un côté négatif qu'on attribue des Jeux olympiques à des pays comme ça. Ça a été la même chose en Russie en 2014. La Russie, elle a envahi la Crimée. Mais tu sais, c'est sûr que c'est décidé d'avance, mais on leur donne le droit, pareil, d'avoir les Jeux olympiques un pays qui n'est pas une démocratie, mais après ça... Il y a un autre débat qui rentre en ligne de compte c'est qui le comité olympique canadien pour décider qui est une bonne démocratie ou pas? Parce que là, si on regarde le classement, les États-Unis sont pas mieux au niveau des démocraties. Ils sont genre 40e dans le monde. Il y a plein de pays qui sont démocratiques puis qui le sont pas réellement. T'sais, après ça, ça vient. C'est qui l'arbitre pour juger qu'est-ce qui est une démocratie? Mais c'est juste qu'il faut avoir quand même une certaine logique dans l'attribution des pays pour les Jeux olympiques.
Tu sais. Mais tu parlais de l'exemple de la Russie en 2014. C'est fou parce que M. Boniface en parlait dans son livre. Ça a été leur, je pourrais dire, Vladimir Poutine a utilisé les Jeux olympiques pour envahir la Crimée. C'est-à-dire que ça l'a permis un boost nationaliste envers la Russie. Alors, regardez comment nos Jeux olympiques sont gros. Bon, comment on se rallie autour du drapeau, puis regarder qu'est-ce qui s'est produit, bien, ça leur a donné la motivation. OK, on peut le faire parce que la population est derrière nous. Parce que.
Ouais, même si le sport encore des athlètes était dopé, on l'a su par après.
Ça, c'est un autre enjeu, OK, pour un autre épisode. Mais une chose est certaine, c'est que le sport, puis là, encore une fois, je ramène au livre de M. Boniface, la particularité de ce soft power-là, c'est qu'il est positif. Pourquoi tu critiquerais le sport? C'est bon pour ta santé. Ça crée des connexions. Ça permet de ne pas décrocher à l'école, de un. L'élément politique du sport, l'aspect politique en plus large, mais tu peux pas critiquer ça en soi. Le fondement du sport, je dis pas comment tu prends le sport comme un outil, je te parle de sport en soi. Personne va critiquer un champion olympique. Personne va le faire. Bon, certaines exceptions, vous comprenez. Donc, c'est pour ça que les États en profitent en masse pour investir massivement dans le sport, que ce soit olympique ou autre. Parce que ce soft power-là, ou ce hard power-là, il peut pas être critiqué. C'est pas comme l'armée d'un État ou la culture cinématographique. Il y a des baromètres ou des données qui peuvent être plus sensibles. Ça a des lacunes, c'est ce genre de soft power-là. Donc oui, ça vient vraiment... Je voulais donner du pouce sur ce que tu as dit. Là. Mais c'est vraiment intéressant. Puis comme je parlais encore une fois du monde multipolaire, tu sais, je revenais sur le terme de la mondialisation. Puis M. Boniface utilise cette analogie-là dans son livre, puis aussi simple soit-il, c'est quand même assez puissant comme propos. Il demande, il mentionne, si vous demandez dans une classe de 100 personnes qui connaît Usain Bolt, tout le monde va lever la main. Mais si tu demandes qui est le premier ministre ou le président de la Jamaïque, personne ne va le savoir. Pourquoi tout le monde, pourquoi cette analogie-là? Ben, c'est pour mentionner à quel point le sport est médiatisé, il est populaire, les athlètes niveau mondial qui sont le plus suivis sur les médias sociaux, qui sont le plus, je pourrais dire, acclamés par le public, c'est les sportifs. Parce que je l'ai mentionné, ben, mis à part des exceptions, bien entendu, mais qui va critiquer un sportif qui gagne ou une sportive qui gagne? Personne. Personne. Et non, c'est pas comme, je donne un exemple, puis tu sais, ça c'est éditorialiste, là, c'est vraiment pas, mais par exemple un acteur ou une actrice, ben si tu fais un mauvais film, ben, tu vas te le faire dire, tu sais. Ben si tu gagnes, ben non, ça marchera pas. C'est pour mentionner aussi à quel point aujourd'hui, ben comme le sport suit le système stratégique politique mondial, ben aujourd'hui, les Jeux Olympiques, c'est suivi par, je veux même pas savoir combien y a de journalistes qui passent par là pendant les deux semaines des compétitions. Avant, au 20e siècle, mais il y en avait quelques-uns. Puis si tu n'étais pas sur place, tu ne savais pas c'était quoi les Olympiques, tu ne le vivais pas. Maintenant, moi, je suis chez nous dans mon divan, puis je ressens de l'émotion autant que la personne qui regarde le 100 mètres à 2 mètres d'André DeGrasse. Là. Ce qui est en soi fou parce que ça génère tellement d'argent, ça génère de la sympathie, puis tu peux avoir un sentiment d'appartenance envers une équipe qui n'est même pas à côté de toi, tu sais. Je vais prendre un exemple. T'sais. J'adore FC Barcelone, l'équipe de soccer. Ben, pourquoi j'aime FC Barcelone? Je suis même. Ok, je vais dire, je suis québécois, Catalogne, on peut comparer deux nations. Là, c'est poussé, là, je vais pas dire ça. Non, c'est vraiment parce que je peux le suivre en réel autant que le Barcelonais ou la Barcelonaise. Ce que la mondialisation, l'effervescence des médias de masse, Internet, la technologie en général, fait en sorte que. Ben, on peut arriver à ce constat-là. Donc, tu sais, de manière très grossière, tu sais, ou de très simpliste, ben, le livre mentionnait, pour la partie du livre que j'ai lu, mentionnait ces éléments-là que je trouvais vraiment intéressants et qui, vient de impacter ou bien mettre du pouce sur notre analyse qu'on mentionne aujourd'hui. Là.
Puis là, en fait, moi, j'ai le goût de vous amener, Mégane et Nicolas, sur ce sujet-là. On parlait de sport et politique, mais quoi de mieux que de sport et politique que de parler. On parlait tantôt là, du front là, de SOS. On pourrait parler de défection parce qu'il y a beaucoup de soviétiques, des sportifs soviétiques ont fait défection de leur pays pour venir en Amérique du Nord pour, bon, évidemment, avoir une vie meilleure, mais aussi exercer leur métier dans toute la liberté que le régime communiste soviétique leur empêchait. Puis ça me faisait penser que lorsque les soviétiques faisaient défection, il y avait énormément de racistes envers eux. Tu sais, avant qu'ils commencent à faire défection au courant des années 80, de plus en plus, là, c'est un phénomène fréquent parce que la Ligue nationale repêchait ces joueurs-là dans leur équipe. Ben, il y avait une certaine marque de respect entre soit les États-Unis, soit le Canada, envers les joueurs russes, soviétiques, qu'ils affrontaient dans des matchs. Il y avait une forme de respect, il y avait très peu de racisme. Et il y en a eu davantage lorsqu'ils sont venus en Amérique au sein des équipes. Il y avait littéralement de la discrimination de certains joueurs. Puis, bon, là, ça va paraître vraiment là, très, très tiré à couteau tiré, là, qu'est-ce que je veux dire. Mais dans L'Anse et Compte, OK? L'Anse et Compte, c'est une série télé dans les années 80 sur le hockey. Puis, il y avait des joueurs qui ont fait défection pour s'en venir. Puis, on le voyait, le Canada était très ouvert. Aux soviétiques, on l'a vu. Pierre-Éliott Trudeau s'est foutu littéralement de la gueule du président américain. Il est pareil allé en Union soviétique alors que le président américain ne voulait pas. Il y avait une ouverture. Mais aux États-Unis, il y a une grande fermeture au début de la part des soviétiques. On va les mettre à part, on va les... Littéralement, là, on va faire de l'intimidation, on ne va pas vouloir qu'ils jouent avec nous, tout ça. Mais c'est avec les Red Wings de Détroit, par exemple, qu'on va voir ce changement-là changer. Les Red Wings de Détroit, dans les années 90, vont arriver avec Scotty Bowman comme coach. Puis lui, il va arriver, puis il va mettre de l'avant les Russes. Avec le Russian Five, qui va être composé de 5 Russes qui ont joué ensemble. Et je vous dis, ils dominent la Ligue pendant 2 ans. Ils vont gagner la Coupe cette année, d'ailleurs. Puis, ça va changer à partir de là parce que, bon, la mentalité va changer puis évoluer, puis il va y avoir moins de racisme envers eux. Mais c'est juste pour vous dire que, même s'il y avait une confrontation S-Ouest dans le respect au hockey, dans une compétition sportive, bien, lorsqu'ils ont commencé à faire défection, il y avait du racisme parce que c'était comme, ah, ben vous venez piquer nos jobs. C'était ça un peu le discours des joueurs américains.
Puis, je voulais d'ailleurs relancer un autre élément, pas de relations internationales, mais aussi, mais plus particulièrement de comportement électoral. Dans la littérature scientifique des comportements électoraux, on tente de voir si des événements non relatifs à la politique qui arrivent soudainement ou non influencent les élections, le choix de vote, les intentions de vote, la participation électorale. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. On remarque des effets positifs envers le gouvernement en place lorsque l'équipe nationale remporte certaines grandes compétitions. Je pense par exemple on a eu plusieurs études, puis j'en ai lu une dans le cadre d'un cours cette année où est-ce que dans des études spécifiques, par exemple la finale nationale du championnat de football universitaire, il avait une étude là-dessus, ben l'équipe championne, les partisans de l'équipe championne avaient un taux d'approbation du président sortant, ben président actuel, positive sur une période limitée dans le temps. Et parce que ben ils se sentaient bien, parce que en fait le constat qu'il faut admettre, c'est que quand le sport va bien, quand on remporte des compétitions, la population est de bonne humeur. La population oublie ses problèmes. La population n'est pas sceptique en la politique parce que, ben non, on vient de gagner. Puis ça me fait, c'est vraiment fascinant parce que ça me fait, je serais curieux, puis ça c'est une de mes ouvertures, je serais curieux de voir si en 2021, si on avait remporté la Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal, comment ça aurait réagi dans l'opinion publique. Dois-je vous rappeler que lors de la Coupe Stanley, la dernière présence de la Coupe Stanley à Montréal en 2021, où est-ce que le Canadien avait perdu en 5, il y avait la situation COVID aussi qui faisait mal. On s'entend, on sait que le gouvernement voulait ouvrir plus de places dans le Centre Bell, qui était seulement limité à 3500 personnes. Il voulait augmenter la capacité du Centre Bell à 10300 personnes, si je ne m'abuse. Le gouvernement était d'accord, la santé publique ne l'était pas, donc c'est pour ça que la proposition n'a pas été de l'avant. Je vous lance quand même un petit... Puis là, c'est... rien scientifique, c'est juste, on lance en discussion, c'est léger, là. Mais je sais pas si vous vous rappelez de l'effervescence du Canadien pendant cette série-là. Moi, j'ai des amis qui étaient présents lors du match 3 ou 4 contre Tampa Bay, qui était dans
la
foule.
La seule victoire qu'ils ont eu en série canadienne en finale.
Si je ne me trompe pas, oui, c'est celle-là. En pleine crise pandémique, les gens étaient dehors comme des sardines, pas de masque, mais pourtant, ben, y a personne qui rentrait dedans, tu sais, pour dire, ben non, on veut pas ça, on est en crise sanitaire. Ben, c'était le sport, tu sais. Qu'est-ce que vous pensez que ça aurait pu arriver si on allait mettre les pieds là-dedans? Bref, je sais pas si vous avez quelque chose
à dire. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Si, mettons, le gouvernement avait.
Ben, si tu y vas de manière concrète, tes rassemblements aussi élevés. Ouais. Dehors, puis là, vous me direz en autre, vous m'excusez si je me trompe. Autant de monde collé comme des sardines.
Ça
non, ça n'a aucun bon sens. C'est ridicule, tu sais. Mais c'est ça, c'est quand même un élément intéressant parce que c'est le sport. Et François, ben, je comprends. Je comprends le gouvernement en place de ne pas trop mettre de panique ou de frustration envers la population qui a tellement souffert pendant la pandémie avec des restrictions.
Ça aurait été un suicide politique. Faire ça aussi, on s'entend, là, si le gouvernement avait décidé de mettre des sanctions vraiment puis d'agir contre ça, ça... Écoute, sérieusement, je pense que les élections auraient peut-être changé. Le monde aurait été tellement fâché parce que le hockey au Québec, on s'est entendu que c'est...
C'est une religion.
Ah ouais, c'est intense, c'est
une religion.
Là. Oh, ouais. Fait... Non, mais c'est... Moi, c'est ce que j'avais adoré de ce moment-là, par exemple, c'est à quel point, tu sais, tout le monde était tanné, tout le monde était tout négatif, puis quand c'est ça aussi. S'est arrivé, à quel point ça... changement dans la mentalité des gens, là, tout d'un coup, on dirait, là, ça... de bonne humeur, là. C'est fou à quel point juste un sport peut venir changer vraiment le vibe, là, désolé mon terme, mais le vibe de tout le monde au Québec. Ça, c'est impressionnant. Ça m'avait marqué. Là. Moi, je suis quelqu'un qui ne suit pas les Canadiens généralement. Ma mère, ma sœur, oui, mais moi, en tant que telle, non. Puis là, je l'ai suivi tous les matchs. Là, je le regardais tout le temps. Là. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Parce que le Canadien en série, c'est... Même si c'est le Canadien de Montréal, foncièrement, le Canadien, c'est quoi que ça représente? Tu sais, les francophones qui jouent au hockey. C'est ça. Au début là, de l'histoire des Canadiens de Montréal, même si c'était créé par des riches anglophones, c'était pourquoi? Ben, c'était pour faire une rivalité entre anglophones puis francophones parce que le premier propriétaire des Canadiens était anglophone, avait deux équipes anglophones, dont une à Montréal, puisqu'il voulait pour vendre des billets dans sa ligue, qui était la ligue de hockey, la National Hockey Association. C'était ça la première ligue avant que ça devienne la Ligue nationale. Ce qu'il voulait, c'est vendre des billets. Il s'est dit, ben parfait, je vais créer une ligue professionnelle, j'ai une équipe anglophone, il me faut des francophones. Fait que là, c'est là qu'il est allé chercher Jack Laviolette, Didier Pritt, New Zealand, des grandes vedettes qui jouaient pour le Shamrock ou le National de Montréal, je me souviens bien, une équipe amateur, pour faire une équipe francophone. Puis ça s'est perpétué dans le temps.
C'est le mythe. Ben, le mythe fondateur, je ne vais pas dire mythe fondateur, mais je vais le dire, tu sais, vous voyez ce que je veux en venir, le mythe fondateur du Canada, c'est vraiment, ben, c'est au-delà du sport, ça représente toute une nation, tu sais, genre, qui, tu sais, on a bien beau dire que les Maple Leafs de Toronto, c'est l'équipe canadienne. Sincèrement, je vois pas en quoi elle est comparable aux Canadiens en termes de sentiment émotif, national, spécifique à un. Nation, tu sais.
Puis quand on dit français, c'est Canadien français dans le nom. Quand on parle des Habs, on parle des habitants et on fait référence aux francophones. C'est à ça qu'on fait référence, là. Pour moi, c'est beaucoup plus grand que ça. Puis c'est pour ça que quand le Canadien gagne la Coupe Stanley, c'est une grosse célébration. Bon, OK, ça peut dégénérer comme en 93, là, ou quand le Canadien élimine Boston, là. No matter what, la ronde qui Canadien gagne contre Boston, c'est ça qui arrive.
Ou Toronto.
C'est ça. Parce que c'est plus grand que nature, c'est un phénomène de société. C'est ça. Puis, il y avait un cours à l'Université de Montréal dans le temps qui se donnait. Puis, il se donne plus aujourd'hui. C'était un cours sur la religion des Canadiens de Montréal. C'est un cours de sociologie sur le Canadien. Parce que c'est unique en Amérique du Nord, au hockey, c'est unique. On le voit ailleurs aussi, au soccer, parce que c'est un sport mondial. Mais au hockey, ce phénomène-là du Canadien, c'est unique. T'auras pas ça à Vegas, t'auras pas ça à Toronto. Bon, Toronto, ça dépend, là. J'avoue que depuis 1967, s'ils gagnent la coupe, c'est peut-être ça qui va arriver. Mais tu sais, dans les autres marchés, t'as pas ça. Ce sentiment d'appartenance-là, avoir une équipe de hockey. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Québécois encore aujourd'hui ou de Canadiens français qui veulent un entraîneur qui parle français, qui veulent un directeur général qui parle français pour pouvoir communiquer avec le partisan qui est francophone. Alors qu'il y en a d'autres, ben pour qui, ben c'est en fait.
On veut gagner, on veut juste le meilleur.
On veut Mike Babcock, on veut des anglophones, c'est pas grave, on veut gagner. Tu sais.
C'est vraiment intéressant. On s'évade du sujet principal de la politique, mais politique et société, tu sais, ça va de pair, comme on disait. Ouais. Sport qui se met dans ce mix-là. C'est un peu le titre, c'est un peu l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment de voir comment le sport interagit dans notre quotidien, sur le plan politique, sur le plan social. Puis on observe, si on va plus loin, bien, c'est le reflet des institutions, c'est le reflet de notre réalité technologique, sociale, migratoire. Je vais aller là-dedans. On faisait mention notamment de la situation raciale dans le sport. Bien, on observe une montée du nombre d'athlètes noirs au féminin dans les Jeux d'hiver, notamment, dans les Jeux d'été. Donc, ça va de pair avec le développement de nos sociétés, nos États, nos institutions. Et c'est pour ça que c'est aussi riche et intéressant. Non seulement ça attire les foules, le sport, c'est bénéfique pour tout le monde sur le plan de la santé, sur le plan émotionnel, sur le plan de relations sociales, sur le plan de valeurs interpersonnelles. Mais ça va plus loin, ça a un enjeu politique marquant et ce qui rend le tout intéressant. Donc, je sais qu'on est sur le bord de terminer l'heure. Je vous recommande fortement le livre « Géopolitique du sport » de Pascal. Wow, pourquoi j'ai un blanc puis je l'ai lu hier? Là. Je veux juste pas dire n'importe quoi. Là. Pascal Boniface, un chercheur français qui a commencé à parler du concept « Géopolitique du sport » et qui, ma foi, par ses écrits, bien qu'il peut parfois être évident, ben, le met sur papier et lance la littérature. Et j'espère que la recherche va continuer à travailler en ce sens parce que c'est vrai que c'est pertinent et intéressant.
Sur ce, chers auditeurs, auditrices, on s'en va au générique. Merci Nicolas, merci Mégane pour votre participation sur cette émission spéciale sur le sport et la politique. Sur ce, chers auditeurs, nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi. Pas d'émission lundi, comme on l'a dit, c'était notre dernière en direct sur l'actualité. Mercredi prochain, c'est le professeur Guillaume Rousseau, si je me souviens bien. On va parler de crise constitutionnelle qui est peut-être en vue. Ciao!
Bye bye tout le monde.